Dominique Aubert, le photojournaliste devenu pilote de ligne, premier épisode.
De 1983 à 1995, Dominique Aubert a été un photojournaliste staff de l'agence de presse Sigma. Beyrouth, l'Afghanistan, l'Afrique, il a parcouru le monde pour couvrir des conflits, des situations difficiles et des plus anecdotiques comme le Conseil des ministres. Mais cet autodidacte rêvait de photographier les Rolling Stones et avait vraiment peur à la guerre. J'ai très vite su que je ne ferais pas longtemps ce métier, nous confie-t-il honnêtement. Alors, il est devenu commandant de bord sur Boeing 777. Dom, comme ses amis l'appellent, adore les photos qu'il collectionne depuis 40 ans. Sauf les siennes qu'il ne parvient pas à récupérer depuis la faillite de l'agence Corbis Sigma. Voir nos nombreux articles sur ce scandale. Dans ce premier épisode, Dominique Aubert nous raconte ses débuts de photographe et les souvenirs d'un photojournaliste reconnu et respecté par ses confrères. Bonne écoute.
Je nais dans une famille, je vais reprendre l'expression que j'ai lue un jour chez un réalisateur que j'aime bien, qui s'appelle Étienne Chatillez, qui disait « Je suis issu d'une famille bourgeoise, mais complètement désargentée ». Et c'est ce qui est mon cas, voilà.
Et donc, à 18 ans, tu t'engages dans l'armée?
Alors, à 18 ans, même à 17 ans et demi, dans une préparation militaire, parce que c'est tout ce que j'avais trouvé. Et je me suis engagé dans l'armée à 18 ans, effectivement, dans un régiment para qui m'a envoyé au Liban, au 420e détachement de soutien logistique. Je faisais partie donc des troupes de l'ONU, et en tant qu'engagé para, où j'ai appris à faire de la photo.
Ah, c'est avec les paras que tu as appris à faire la photo? Dans quelles conditions?
Alors, au début, j'ai fait mon boulot de para, c'est-à-dire qu'on m'apprenait des choses, notamment à tirer loin, vite, parce que je savais bien tirer. D'après ce que j'ai compris, je n'étais pas non plus manchot avec les explosifs. Et puis après, j'ai eu une issue pour trouver une formation de photographe que j'ai acceptée et qui m'ont donné, quoi. Et donc, je suis véritablement devenu photographe, enfin, entre guillemets, au Liban, mais pas en tant que reporter, en tant que militaire détaché aux Nations Unies.
Mais l'armée, c'était une vocation ou c'était un peu du hasard, une attente d'autre chose?
Ah non, alors l'armée, c'était pas une vocation, sinon j'y serais resté beaucoup plus longtemps. En fait, je suis rentré dans l'armée parce que je savais pas où aller, quoi. Voilà, ça c'est... Je savais pas quoi faire, je savais pas où aller. Malheureusement, je suis pas resté longtemps sur les bancs de l'école. Malheureusement, pourquoi? C'est un autre débat.
Et au Liban, alors, tu restais combien de temps militaire, en fait?
Je suis resté un peu plus d'un an. Et ils m'ont proposé de... Parce que j'avais un contrat très spécial. Ils m'ont proposé de renouveler mon contrat d'engagement et m'engager beaucoup plus longtemps, ce que j'ai refusé. J'ai préféré rentrer dans la vie civile, voilà.
Et le Liban, ça t'est apparu comment, alors, à l'époque?
D'une violence inouïe. Je suis arrivé au Liban en 1982... Et j'ai vu arriver le débarquement israélien le dimanche 6 juin 82 pour envahir le Liban jusqu'à Beyrouth, mais dans une violence inouïe. Et là, j'étais pas encore photographe, j'étais militaire, et j'avais un boulot de militaire à faire, et on a vu des choses pas toujours très sympas, quoi, vraiment. C'était d'une violence inouïe. C'est-à-dire que c'est le moment où ils ont chassé les Palestiniens du Liban, c'est le moment où Yasser Arafat a dû quitter le Liban un peu avec une main devant, une main derrière, beaucoup de gens s'en souviennent, c'est le moment où il y a eu l'attentat contre Amin Gemayel, c'est le moment où il y a eu Sabra et Shatila, ça a été une année extrêmement violente et nous on a assisté à tout ça, sauf que, encore une fois, je faisais des photos, mais c'était des photos pour l'armée, c'est pas des photos que je faisais pour vendre dans les journaux. Ça, en tant que militaire, ça ne m'est pas arrivé.
Et tu côtoyais quand même des photographes?
Oui, j'ai rencontré des photographes, mais dont je ne me souviens plus les noms. J'ai vu des photographes travailler, notamment quand on est allé à Sabra et à Shatila, on a vu de la presse française, on a vu des photographes français, je me souviens.
Et donc, quand tu quittes l'armée, qu'est-ce que tu fais ?
Alors, quand je quitte l'armée, d'abord, j'avais pas les bonnes fréquentations. Ouais, c'est vrai, ouais.
C'est-à-dire ?
Ben, j'avais des copains, comme moi, qui n'avaient pas renouvelé leur contrat d'engagement. Alors, c'était très difficile. Ça s'appelle un dilemme. Je les aimais bien parce que c'était mes copains, tu vois ? Mais ils faisaient des choses pas bien, quoi, tu vois ? Alors, je me suis détaché de ces gens-là. Pas contraint et forcé, mais... Parce que j'étais pas un délinquant, quoi, voilà, quoi. Et j'étais avec des copains qui étaient délinquants. Ensuite, il s'est passé autre chose qui m'a fait un peu réfléchir. Ça a été vraiment assez difficile. Tous ceux qui ont accepté de renouveler leur contrat d'engagement ont été tués moins d'un an après dans l'immeuble Dracard. Parce qu'ils ont été victimes d'un attentat. Cette fois-ci au sud de Beyrouth, pas très loin du camp de Chatila. Et l'immeuble Dracard abritait mon régiment, ma compagnie de combat, et ils ont pratiquement été entièrement décimés, quoi. Voilà. Donc pour moi, ça s'est passé le dimanche 23 octobre 1983, pratiquement un an après que je décide de ne pas renouveler mon contrat d'engagement. Ils sont tous morts. Voilà.
Et donc, tu retournes en France ?
Oui, je retourne en France. Je fais des petits boulots. Et je deviens pigiste régulier à Sigma, à VSD, à l'Express, au Figaro.
À Keston ?
À l'agence France Presse et à Keston, où j'ai rencontré... un mec très sympa qui venait de Sigma, qui s'appelait Xavier Périsset, qui m'a tendu la main et qui m'a fait travailler régulièrement, quoi. Malheureusement, le principal bailleur de Keston, qui était l'AFP, a décidé d'arrêter les activités, quoi, pour rester synthétique. Et puis ça s'est arrêté. Et juste quelques mois après, j'ai fait deux scoops, enfin des petits scoops, on va... rester modeste, hein. Premièrement, j'ai réussi à avoir le dissident, le faux diplomate iranien Wahid Gorgi, qui s'était réfugié dans l'ambassade d'Iran, et qui, au fait, si je me souviens bien, ça fait longtemps, hein, et devait être entendu par un juge parisien qui s'appelle le juge Gilles Boulouk, je crois que c'est lui. Et lui, il a profité, ou il a usurpé une immunité, ou un semblant d'immunité diplomatique, en se réfugiant dans l'ambassade d'Iran. L'histoire, c'est à peu près ça. Et moi, j'ai réussi à l'avoir dans les bureaux. J'étais vachement content. C'est la première fois que j'avais une parution, d'ailleurs, dans Paris Match. J'étais sur un petit nuage, quoi. Et puis ensuite, Claude Thiercé, le rédacteur en chef de Sigma, m'a envoyé avec un photographe de l'agence qui s'appelait Patrick Durand. On est allé faire une planque de Jean-Paul II sur les lieux de ses vacances en Italie. Et malheureusement, ça s'est très mal terminé, parce que à chaque fois, on arrivait un peu à s'approcher de la résidence de vacances du pape. Enfin, c'est le pape quand même, tu vois. Et deux ou trois fois, on se faisait prendre par les chiens des gardes italiens, des chiens qui nous reniflaient, et on s'est fait jeter d'Italie, quoi. On s'est fait. Alors, il n'y avait pas encore l'Union européenne. Il y avait notre nom dans les journaux, c'était pas très brillant, quoi. Notre correspondant à Rome, qui était un mec génial, très gentil, qui s'appelait Gianni Giansanti, qui faisait, lui, tous les voyages du pape pour Sigma, quand même, c'est quand même pas rien, il était accrédité au Vatican, quoi, était furieux contre nous. Comment vous pouvez envoyer deux photographes de la même agence planquer le pape, alors que moi, je fais les voyages du pape? Je suis discrédité. Enfin, ça avait causé tout un problème. Moi, je le comprends, hein. C'était vraiment... c'était pas fin, quoi. Il faut bien le reconnaître, quoi. Et les gens du Vatican ont demandé des comptes à Gianni en disant « Explique-nous ». Mais enfin, ça s'est pas bien passé du tout, quoi. Bon. Donc, ça nous a amené sur un deuxième scoop, parce qu'on était dans les Alpes italiennes, donc. Et sur la route du retour, on s'arrête chez un de mes amis de Chamonix, pour passer la nuit, et au milieu de la nuit, on reçoit un appel de Michel Philippot, qui est quand même un type assez extraordinaire, très sympa, en pleine nuit, qui était dans la rue, en face de l'ambassade d'Iran, où se planquait toujours le Waheed Gorgi, et qui entend un flash spécial d'un torrent de boue inouï qui aurait détruit complètement un camping dans le village savoyard du Grand Bornand. Et là, en pleine nuit, on se réveille. On était quoi, à une heure du Grand Bornand, tu vois, à une heure, 50 minutes peut-être. Et là, on arrive, il faisait encore nuit. Et au lever du jour, on commence à faire le reportage d'un truc effroyable, quoi. C'est une rivière qui s'appelle le Borne, B-O-R-N-E, qui a été gonflée par un orage plus gros que les autres et qui a emmené tout sur son passage.
Oui, je me souviens de cette affaire.
Enfin, il y avait 15 BC pour ramasser. On a fait un travail. Après, c'est un travail que j'aimais pas trop faire, quoi, parce que ça me plaisait pas finalement, quoi. Mais je l'ai fait, en tout cas du mieux que j'ai pu. Et je me souviens avoir photographié. Je suis pas très fier, mais ouais, j'ai photographié un père de famille avec son fils qui venait d'apprendre que sa femme avait été récupérée. Quelques kilomètres en aval du Borne, et donc elle s'était tuée, quoi. Et j'ai fait cette photo-là, et ça fait la une de Paris Match. Et ben, ça m'a... J'étais pas fier de ça, quoi. En tout cas, c'est pas ce que j'aimais le plus dans la photo, parce que je suis véritablement un passionné de photographie, parce que je collectionne beaucoup de photos d'art depuis très longtemps. Quand j'ai des sous, je m'en achète, et puis quand j'ai pas de sous, ben je m'en achète pas, c'est pas très compliqué, hein. Donc j'aime beaucoup la photographie, par-dessus tout. Et ça, c'est des choses dont je ne garde pas un très bon souvenir. Mais enfin, j'avais fait le job, quoi. Et Hubert, quand je suis rentré...
Hubert Henrot, le patron de Sigma.
Hubert Henrot, quand je suis rentré de ce reportage. Alors, on avait fait Paris Match, des pages En veux-tu, en voilà dans Paris Match. Je ne sais pas si ça existe encore, mais le Paris Match allemand, la couverture de Bunte et des pages En veux-tu, en voilà. J'en avais dans toute l'Europe. Enfin, c'était une des histoires de l'été, et ça nous était tombé dessus. Alors, on était deux quand même. Il y avait moi et Patrick Durand, mais je suis rentré à Sigma comme ça. Coup sur coup, j'ai fait. Alors, à un mois d'intervalle, quoi. J'ai fait Waheed Gorgi. Et cette histoire du Grand Bornand.
Et donc, tu deviens staff à l'agence Sigma. Il y avait qui à cette époque-là?
Alors, Hubert Henrot, qui dirigeait l'agence. Claude Tiercé, qui était rédacteur en chef. Gérard Wurtz, pour dire un mot sur lui. Eh bien, il m'a confié une partie de ses archives qui m'intéresse. Il m'a demandé de m'en occuper. Il y avait Patrice Abance, avec qui je m'entendais bien. Il y avait Michel Philippot. Il y avait encore Henri Bureau qui était là, qui était rédacteur en chef, mais il était sur le point de partir. Il y avait Jacques Langevin, il y avait Thierry Orban, il y avait Alan Tannenbaum, il y avait Derek Hudson, avec qui je me suis toujours super bien entendu. D'ailleurs, ma femme travaille aujourd'hui avec Derek. J'adorais regarder les photos qui arrivaient de Londres et de Los Angeles de Terry O'Neill, quoi, qui était un photographe. Mais Terry O'Neill, il laissait ses photographes à Sigma. C'était dingue, quoi. Tu vois. Il y avait Douglas Kirkland qui laissait ses photos à Sigma. C'est quand même fou, quoi. Ces mecs-là, qui faisaient partie, quand même, on peut le dire, des plus grands photographes du monde. En fait, c'est ça que j'aurais bien aimé. C'était ça que je voulais devenir, tu vois. Faire les photos, les mêmes photos que Douglas Kirkland et Terry O'Neill, mais eux s'intéressaient au monde du rock et tout. Mais c'était mon objectif que j'ai jamais pu réaliser, hélas. Voilà. Alors, qui avait comme photographe? Il y en avait d'autres. Bernard Bisson, Gianni Giansanti, qui lui aussi a fichu le camp, malheureusement, très jeune. C'était lui qui avait fait Aldo Moro, quoi, dans le coffre de la R4, hein, quand même. Il avait fait un scoop incroyable, hein, mais c'était lui qui avait fait la photo, quoi. Il y avait un laboratoire fabuleux à Sigma, moi qui m'intéressais vraiment à la chromie. Au noir et blanc, il y avait des pointures, quoi. Les mecs, ils tiraient, mais comme des dieux. On faisait des tirages argentiques avec papier glacé, ça c'était du luxe, quoi. C'était tout en luxe pour le noir et blanc. Et puis pour la couleur, il y avait Claude Finet. Je sais pas si tu connais Claude Finet, qui avait une chaîne. On avait deux chaînes E6. C'était fou, quoi. Et lui, il faisait des duplis d'une qualité extraordinaire. Il y avait des gens comme ça, quoi. Il y avait un mec que j'aimais beaucoup. Et il était plus intéressé par le cinéma que la photo, mais il me faisait rire. Il allait voir Claude Finet avec sa mobilette. Il disait, à quelle heure tu plonges la prochaine chaîne 6 oh, bah, t'arrives en retard, là. Là, je peux plus plonger avant 18h. Hein. Bon, alors j'ai encore le temps d'aller voir celui-là. Il retournait au cinéma. C'était un mec qui allait 3-4 fois au cinéma par jour. Et d'ailleurs, il a été 2 fois finaliste à Monsieur Cinéma. C'est là où il y avait les champignons pour répondre. Et c'est comme ça qu'il s'est acheté son matériel photo. Il s'appelait William Carell. Bah, William Carell, il me faisait rêver, moi. Il faisait vraiment rêver. Il y avait une femme qui s'appelait Blanche. Ils étaient toujours ensemble. Mais il avait vraiment une passion. Mais il était fort, en plus, en cinéma. Il savait tout, tu ne pouvais pas le coller. Et ce mec-là, maintenant, il s'est devenu un très grand réalisateur de documentaires. Tu sais, alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Quand j'ai commencé à être pigiste à Sigma, c'était ça, Sigma. Tu rencontrais des gens comme ça. Tu rencontrais des gens comme Léonard de Rémy, qui étaient vraiment des grands, quoi. C'était des grands qui étaient à Sigma. Bon, moi, je n'ai jamais été un grand, mais moi, ces mecs-là me faisaient rêver. Léonard de Rémy, ses photos de Bardot, ça me faisait rêver. Où je pouvais de temps en temps déposer un film et convaincre Hubert Henrotte ou Henri Bureau de remplir un cahier de reportage. C'était la rue des Vignes, ça. Rue des Vignes. À droite, en descendant l'avenue Renoir. Là. C'était vachement bien. Et là, c'était fou. Quoi. Et là, il y avait Périssé. Il y avait Jacques Pavlovski. Et c'était des mecs qui... Moi, je rêvais vraiment. Enfin, j'étais vraiment... J'adorais cette agence, quoi.
Et alors, quand est-ce que tu pars à l'étranger ?
Je commence mon premier reportage à l'étranger. Ça a été un reportage en Afghanistan avec des Moudjahidines qui ont repris une route qui relie la ville de Rost. Rost, alors ça se prononce Rost, mais ça s'écrit K-H-O-S-T. Parce que le K et le H, ça fait R, qui relie Rost à Kaboul. Et c'était mon premier reportage à l'étranger. Alors là, je ne passais plus les portes, quoi. Tu vois, j'étais vraiment heureux, quoi. Et j'ai eu, je crois, 5 pages ou 6 pages dans Paris Match.
Tu y arrivais comment là-bas ?
Au Pakistan. Et ensuite, il fallait passer la frontière en Toyota par Peshawar. Et là, eh bien, il fallait s'organiser. On était dans des camions, des Toyota. Les Pakistanais nous laissaient rentrer parce qu'ils avaient hors de... Enfin, ils laissaient passer les journalistes étrangers, un point c'est tout. Et après, on se retrouvait là-bas. Et je me souviens être parti avec 2 journalistes, dont un est mort. Le premier, c'était Michel Parmentier, qui était un journaliste de RTL, qui était devenu caméraman à M6. M6, c'était à l'époque, on l'est en 87, c'était une chaîne qui venait d'être créée. Voilà. Et je suis parti avec Jacques Labib, qui était un journaliste d'RTL, qui a été le scénariste, c'était quelqu'un qui écrivait des scénarios pour le cinéma. Et je suis parti avec eux. Et on est parti, on est resté un mois. C'était mon premier reportage à l'étranger.
Tu rentres et tu repars où ?
Ensuite, au staff de Sigma, je faisais beaucoup de choses qui m'enquiquinaient vraiment. Quoi. Alors j'apprenais à faire des photos, j'apprenais la technique. Mais j'étais le lundi au conseil des ministres de machin chose. Le mardi, j'allais à la Bourse du Commerce pour autre chose. Ensuite, j'étais à l'hôtel de ville pour rencontrer Jacques Chirac, avec qui il faisait un truc. Et puis ainsi de suite. Et ensuite, mon prochain reportage, qui m'a valu aussi de belles parutions, toujours dans Paris Match et le Figaro Magazine, ça a été le Noël 87. Et j'ai passé 15 jours à bord d'un bâtiment de la marine française pour des événements dans le Golfe avec un blocus tendu par les Iraniens au détroit d'Ormuz. Et j'ai eu un beau publi reportage dans Paris Match et dans le Figaro Magazine. Donc c'était de la même année, quoi. C'était un peu une année où ouais, ça marchait, quoi. Ça marchait quoi, vraiment, quoi. Mais enfin, ce que je peux dire maintenant avec beaucoup de recul, parce que dans ma vie, j'ai passé ma vie à apprendre tout seul. Je le répète, malheureusement pour moi, je ne suis pas resté longtemps à l'école. Et après l'armée, j'ai pris l'habitude de lire tout ce qui me tombait sous la main. Je te donne un exemple. Bon, j'en parle pas beaucoup à personne, mais je te le dis parce que je t'aime bien. J'étais devenu incollable sur le siècle des Lumières. Quoi. J'ai dû relire 3 fois de suite l'archipel de Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Mais ça, c'est quand j'étais chez moi, en vacances, ou quand j'étais tranquille, à l'hôtel, dans un avion. Dans un avion, je lisais beaucoup. Personne ne me venait m'emmerder, j'étais tranquille et je lisais. Donc, et en fait, très vite, j'ai compris que je n'allais pas faire ce métier longtemps.
Ah, c'est étonnant, ça.
Parce que ça ne m'intéressait pas. C'est pas comme ça que je voyais la photo. Moi, je voulais faire de la photo, j'aurais voulu suivre les Rolling Stones, quoi, tu vois. Ça m'aurait vraiment intéressé.
Oui, t'étais fan de rock ?
Ouais, toujours. Et de temps en temps, j'allais m'offrir un tirage dans une galerie. Alors, je les classais, tout ça. De temps en temps, je les regardais, je les ressortais. Et puis, voilà, j'ai toujours fait comme ça. Et maintenant, c'est vrai, bah ouais, les gens ils viennent me voir. Mais d'où ça vient, cette collection ? Ouais, mais moi, mon ami, j'ai commencé il y a 44 ans, quoi. Tu vois ? Et j'adore ça.
Et donc, très vite, tu as senti que tu ne ferais pas ce métier longtemps ?
Oui, parce que ça me... Alors, c'est un dilemme, ça s'appelle un dilemme. J'ai toujours été passionné de photographie, mais alors, photographier, je ne dis pas que c'est pas bien, hein, je me permets juste de dire que je me suis rendu compte que ça m'intéressait de moins en moins. C'est tout à fait différent, quoi, tu vois. Hein, c'est pas du tout... mais alors, quand j'ai commencé à faire des photos de guerre, d'abord, ça me foutait la frousse, quoi, tu vois. Mais j'y allais. J'ai eu de longues conversations avec ça, avec Chauvel, que je connais depuis très longtemps, avec qui on est vraiment potes. On en a parlé. Il m'a dit, tu sais, je sais ce que tu as fait, c'est dingue, c'est fou. En fait, tu les as toutes faites et tout ça. Et il me dit, oui, oui. Mais moi, tu vois, quand je me suis trouvé dans des endroits impossibles, j'avais tellement peur mais j'y allais quand même, quoi.
Par exemple, la première fois où tu es allé où tu as eu peur comme ça, c'était où ?
À Kandahar. À Kandahar, j'ai eu vraiment eu la trouille. Parce qu'on se retrouvait avec des moudjahidines qui étaient barges. Ils étaient fous. Fous. Au mépris du danger. Oh, tu sais, le mépris du danger. Au mépris du danger. Et tu te retrouvais dans des configurations tellement dangereuses que tu ne pouvais pas faire de photos. Tu peux pas. Ou alors tu te fais flinguer, quoi. Comme j'avais pas envie de mourir, en fait, j'avais peur, quoi. Je le reconnais. Pour moi, c'est pas une maladie honteuse, quoi. J'avais peur, vraiment, j'avais peur. Et je jouais à me faire peur, quoi. Je jouais à me faire peur. Et c'était... Moi, je trouvais ça inutile. Bon, pour moi, mais Patrick, j'en ai parlé avec lui avec sincérité, profondeur. Il m'a dit, je te comprends. Mais il me dit, tu le reconnais au moins, toi. Tu le reconnais. Mais moi, je le dis, quoi, hein. Et alors j'ai fait ça, donc j'ai fait des reportages comme ça. Je suis allé au Liban, c'était à l'époque où il fallait aller au Liban tout le temps. Moi j'ai passé 2 ans en assignment pour Time et Newsweek à Beyrouth. Mais j'étais en assignment, ça veut dire que s'il se passait rien, ben je faisais rien. Puis s'il se passait un boom ou un truc, ben je le faisais. Mais le soir, à Beyrouth, on était dans des hôtels payés donc par le journal. Et puis on mangeait comme des rois, enfin on avait tout ce qu'on avait, on bouffait ce qu'on voulait, c'était l'opulence, quoi. Le Liban, en tout cas, c'était l'opulence. Et la journée, c'était le moins désagréable au Liban parce qu'il y avait tout ce confort. Il y avait tout ce confort. Que par exemple, mes confrères ou mes anciens confrères en Ukraine aujourd'hui, ils n'ont pas ça. Quand ils sont à Barkmout, je ne sais pas, ils me l'ont dit, que ce soit Chauvel ou.
Édouard Elias,
il me dit là-bas, tu n'as rien, quoi. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de Beyrouth, là. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de langouste, il n'y a pas de Coca-Cola. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc le Liban, c'était un peu plus facile, quand même. Il faut bien le reconnaître. C'était beaucoup plus facile.
Et puis après, quand même, c'était dur, non ?
Oui, c'était dur, c'était dangereux. Parce que tu pouvais te faire tuer bêtement, quoi. Bêtement. Sans que personne se soucie de toi. Je me souviens avoir remplacé Alain Noguès. Oui, il y avait Alain Noguès qui était là. Je me souviens avoir remplacé Alain Noguès, qui s'était fait, qui a pris une raclée, le pauvre. Il a été salement blessé, Alain Noguès. Il grimpait avec des combattants, je crois qu'il était, à l'arrière d'un espèce de pick-up et tout ça, et il s'est fait prendre en joue par un espèce de missile filo-guidé. Il s'est retrouvé couvert d'éclat, on a dû le rapatrier en France et tout, ça a été très moche pour lui. Bon, il n'est pas mort, Dieu merci, mais il était vraiment blessé. En fait, au Liban, c'était ça. Si ce n'était pas ton jour de chance, tu pouvais finir estropié. Et moi, j'ai vite compris qu'il fallait que je tourne la page, quoi. Vraiment, vraiment. Alors, je continuais. Après, malheureusement, à Sigma, je crois que j'ai fait une très grosse bêtise. On en reparlera plus tard, je te dirai en détail ce que j'ai fait.
Ce podcast a été enregistré le 7 août 2023 à Sifour-les-Plages par Michel Puech. Réalisation Jean-Louis Vinet avec la voix de Rose Monnet.